Moïse a finalement accepté de retourner en Égypte. Il l'a fait en réponse à l'appel de Dieu. Il l'a fait après avoir fait valoir ses réticences, et nous avons vu dimanche dernier le long dialogue à ce sujet entre Moïse et Dieu. Il l'a fait donc, et nous le retrouvons ce matin, alors qu'il retourne chez lui pour annoncer son départ à son beau-père Jéthro. Ce matin, nous poursuivons donc notre série sur Moïse. C'est le cinquième volet. Et je vous invite à lire maintenant le passage que nous allons méditer ce matin. Nous sommes dans le livre de l'Exode, au chapitre 4, et nous allons lire les versets 18 à 31. Exode chapitre 4, les versets 18 à 31. Moïse s'en alla. De retour auprès de Jéthro, son beau-père, il lui dit « Laisse-moi, je te prie, retourner vers mes frères qui sont en Égypte pour voir s'ils sont encore en vie. » Jéthro dit à Moïse « Va en paix. » Le Seigneur dit à Moïse en Madian « Va, retourne en Égypte, car ils sont morts, tous ceux qui en voulaient à ta vie. » Moïse prit sa femme et ses fils. Il les fit monter sur des ânes et retourna en Égypte. Moïse prit le bâton de Dieu. Le Seigneur dit à Moïse, « Maintenant que tu retournes en Égypte, regarde tous les prodiges que j'ai mis dans ta main. Tu les feras devant le Pharaon. Et moi, je ferai en sorte qu'il s'entête. Il ne laissera pas partir le peuple. Tu diras au Pharaon, « Ainsi parle le Seigneur, Israël est mon fils, mon premier-né. Je t'ai dit, laisse partir mon fils pour qu'il me serve. Et tu refuses de le laisser partir, alors je vais tuer ton fils, ton premier-né. » Pendant le voyage au campement, le Seigneur le rencontra et chercha à le faire mourir. Séphora prit un silex, coupa le prépuce de son fils et lui fit toucher ses pieds en disant « Tu es pour moi un époux de sang. » Alors il le laissa quand elle dit « Époux de sang à cause de la circoncision. » Le Seigneur dit à Aaron « Va à la rencontre de Moïse dans le désert. » Il partit. Rejoignit Moïse à la montagne de Dieu et l'embrassa. Moïse fit connaître à Aaron toutes les paroles du Seigneur qu'il avait envoyées et tous les signes qu'il lui avait ordonné de produire. Moïse et Aaron s'en allèrent et rassemblèrent tous les anciens des Israélites. Aaron dit toutes les paroles que le Seigneur avait dites à Moïse et il produisit les signes sous les yeux du peuple. Le peuple crut. Quand ils apprirent que le Seigneur intervenait en faveur des Israélites, qu'il avait vu leur affliction, ils s'inclinèrent et se prosternèrent. J'aimerais, dans ce texte de transition, entre la vie au pays de Madian et le retour en Égypte, texte de transition entre les 40 années passées dans le désert et les 40 années qu'il va passer à la tête du peuple de Dieu, j'aimerais focaliser notre attention en particulier sur différents parallèles ou prolongements que l'on peut faire entre la situation de Moïse et notre service pour le Seigneur. Servir le Seigneur. C'est ainsi que nous ne considérerons pas ce matin la question de l'endurcissement du cœur de Pharaon dont il est question au verset 21. C'est une question difficile, nous ne l'éludons pas, mais nous l'aborderons un petit peu plus loin dans la série parce qu'il en sera à nouveau question à plusieurs reprises. Si Moïse retourne en Égypte après 40 ans passés au pays de Madian, c'est donc parce que Dieu l'a appelé et parce que Moïse a répondu à cet appel. Avant d'en venir au texte, il y a une première chose que j'aimerais souligner concernant le service auquel Dieu appelle chacun de ses enfants, auquel Dieu nous appelle si nous sommes disciples de Jésus-Christ. Au service du Seigneur, il y a un temps pour tergiverser, comme nous avons vu Moïse le faire la semaine dernière, mais il y a aussi et surtout un temps pour s'engager, un temps pour dire oui, un temps pour faire le pas de la confiance, le pas de l'engagement confiant au service du Seigneur. Ce temps de l'engagement est toujours un pas de foi. C'est tout sauf un pas qui veut dire que nous avons enfin toutes les réponses à nos questions et à nos pourquoi, que nous avons enfin toutes les garanties. C'est tout sauf un pas qui veut dire qu'il n'y aura plus d'autres questions, qu'il n'y aura plus de doutes à l'avenir. Au service du Seigneur, il y a régulièrement de nouvelles questions, régulièrement de nouvelles craintes, régulièrement de nouveaux doutes. Mais s'il y a un temps pour tergiverser, il y a aussi un temps pour s'engager, un temps pour y aller, pour se bouger, un temps pour s'engager en sachant que Dieu répondra aux nouvelles questions et aux nouveaux doutes qui ne manqueront pas d'arriver et qu'il le fera en son temps. Devant cette nécessité de s'engager, de répondre à l'appel du service que Dieu adresse à chacun de ses enfants, il faut ici rappeler deux extrêmes à éviter, deux écueils à éviter. Le premier, c'est de foncer sans réfléchir, sans prendre le temps de dialoguer avec Dieu, c'est-à-dire sans prendre le temps de la prière, le temps de la réflexion, sans prendre le temps de dire à Dieu nos réticences, par exemple, nos craintes, nos doutes. Dieu nous appelle et nous sommes touchés, nous sommes convaincus, nous sommes remplis de zèle et nous fonçons. C'est vrai, il y a des personnalités qui sont plus rapides que d'autres à prendre des décisions. Il y en a qui sont plus longs à la détente aussi, comme on dit. Mais la réalité est que la précipitation conduit parfois, heureusement pas toujours, à manquer de sagesse. Il est toujours bon de prendre le temps de faire le point devant Dieu avant de dire oui, avant de s'engager résolument. Et c'est ce que Moïse a fait. Deuxième extrême à éviter, après celui de foncer sans réfléchir, c'est de réfléchir sans fin, de discuter sans fin avec Dieu, de ne jamais finir de discuter et de ne finir par ne jamais prendre de décision, de ne pas arriver à prendre le pas de l'engagement. Dieu nous appelle, nous sommes touchés, nous hésitons, nous doutons, nous craignons, nous tergiversons, tout ça c'est normal, nous tournons en rond et nous reprenons, nous tergiversons, nous doutons, nous craignons et nous ne nous engageons pas. Ici aussi la personnalité peut jouer, il y a des tempéraments qui doutent plus que d'autres, c'est une réalité, il y a des personnalités plus indécises que d'autres, mais si la précipitation conduit parfois à manquer de sagesse, la procrastination, l'ajournement sans fin aussi. Comme souvent, c'est le juste milieu qu'il faut viser. Moïse a dialogué avec Dieu, il a tergiversé, mais ensuite il s'est engagé, il s'est mis en mouvement avec confiance. Et son exemple nous rappelle qu'au service du Seigneur, il y a un temps pour discuter, pour douter, pour tergiverser, et puis ensuite il y a le temps de l'engagement avec confiance. Confiance en particulier que Dieu pourvoira à son service. confiance que Dieu répondra en son temps à toutes les nouvelles questions qui viendront sur notre chemin. Que fait Moïse une fois de retour chez lui? Le texte est sobre et ne donne pas beaucoup de détails, si ce n'est qu'il est allé voir son beau-père, Jéthro. Moïse s'en alla, de retour auprès de Jéthro, son beau-père, il lui dit. Il va voir son beau-père Jéthro pour lui faire part de ses projets et peut-être même pour lui demander la permission de partir. Souvenons-nous que nous sommes dans une société patriarcale et que les 80 ans de Moïse ne changent rien à la situation. Qu'a dit Moïse à Jéthro? Le texte rapporte seulement qu'il lui a dit qu'il voulait rejoindre ses frères et voir s'ils étaient encore en vie. Moïse a-t-il tout dit à Jéthro? Lui a-t-il caché la véritable raison de son départ? Certains le pensent, parce qu'au verset 18, il ne fait pas allusion ni à l'appel de Dieu, ni à la révélation au buisson ardent, ni à la mission que Dieu lui a confiée de libérer les Hébreux. Je ne sais pas s'il faut trancher, je ne sais pas si on peut trancher. Mais il est difficile, à mon sens, d'imaginer que Moïse n'a rien dit à Jéthro, à Séphora, à sa famille, de sa rencontre avec Dieu, de sa rencontre au buisson ardent. Comment aurait-il pu garder le silence sur quelque chose d'aussi extraordinaire? Une chose est sûre, cependant, c'est que le silence de l'Écriture, qui ne peut pas tout dire, ne signifie pas forcément que Moïse n'a pas dit d'autres choses, que Moïse n'a pas dit les choses, que Moïse a cherché à cacher la véritable raison de son départ. Quoi qu'il en soit, et quel qu'ait été le discours de Moïse, Jéthro lui donne sa bénédiction et le laisse partir en paix. « Va en paix, lui dit-il. » Même si c'est quasiment inconcevable, Moïse aurait pu retourner en Égypte sans passer par la case du beau-père. Il ne l'a pas fait. Il a fait les choses avec bon sens. Il a fait les choses dans l'ordre. Il a fait les choses en cherchant l'approbation du patriarche, du clan. Ce qui m'amène à dire, deuxièmement, que répondre à l'appel du service ne nous dispense pas d'agir avec bon sens et sagesse, en particulier avec les autres, en particulier avec nos proches. Il était normal que Moïse parle à Jéthro avant de partir. Il était normal que Moïse parle avec les siens, qu'il leur fasse certainement part de ce qui s'était passé au buisson ardent, à la montagne de Dieu, qu'il leur raconte son cheminement, la décision qu'il avait prise, qu'il les aide à comprendre ce qui s'était passé en lui. Partir sans rien dire à Jéthro, sans dialoguer, sans répondre aux questions qui pourraient se poser, au nom peut-être de l'urgence de la situation du peuple en Égypte, au nom peut-être de l'appel extraordinaire que Moïse avait reçu de Dieu, n'aurait pas été normal, n'aurait rien eu de spirituel. Parfois, les chrétiens imaginent à tort, bien sûr, que répondre à l'appel du service, quel qu'il soit, les place dans une catégorie particulière, leur donne certains droits, leur autorise certains raccourcis, leur accorde certaines dispenses, les dédouane d'un certain bon sens. Mais il n'en est rien. Répondre à l'appel de Dieu ne nous dispense pas, par exemple, d'avoir des égards envers nos proches, qu'ils soient chrétiens ou pas. Ne nous dispense pas d'agir avec bon sens et avec sagesse envers nos proches en particulier. Au contraire, nous devrions toujours agir dans la plus grande transparence. Nous devrions toujours être des modèles de tact et de bienveillance envers nos proches. Pourquoi ne pas leur dire les choses? Pourquoi ne pas leur expliquer? Pourquoi ne pas chercher à les convaincre? Alors bien sûr, dire les choses ne veut pas forcément dire qu'elles seront comprises, ni qu'elles seront acceptées. Mais elles doivent être dites néanmoins. Elles doivent être dites en donnant le temps à l'autre de digérer la nouvelle, de la comprendre et de cheminer à son tour. Pour celle ou celui qui a répondu à l'appel de Dieu, les choses sont claires. Sont claires en lui, il a fait son chemin. Mais elles ne le sont pas forcément pour celle ou celui qui n'a pas vécu l'appel de Dieu, qui n'était pas au buisson ardent, ou quel que soit le lieu de la révélation du moment où j'ai pris la décision. Même si nous plaçons le Seigneur au-dessus de tout et de tous, et nous le faisons, cela ne veut pas dire que nous pouvons ou devons agir sans bon sens, sans sagesse. Même si c'est ultimement au Seigneur que nous devons rendre des comptes, cela ne nous exempte pas de bien faire les choses, tout simplement. De parler avec son conjoint du service que j'aimerais accepter dans l'Église, c'est tellement évident. De parler à ses parents de l'engagement que j'aimerais peut-être accepter au sein du groupe de jeunes. De simplement faire les choses avec bon sens et dans l'ordre. Mon engagement, quel qu'il soit, n'est pas pris dans le vide et aura forcément des incidences sur la vie des autres, de ceux qui m'entourent, et je me dois de leur parler. Répondre à l'appel de Dieu, quel qu'il soit, ne nous dispense pas d'agir avec bon sens. Au verset 19, Dieu s'adresse ensuite à Moïse. Et que lui dit-il? Il l'informe que ceux qui en voulaient à sa vie sont morts. Comment, Seigneur? Mais tu ne pouvais pas le dire plus tôt? Ça m'aurait bien simplifié les choses. Ça m'aurait évité de gamberger. Ça m'aurait permis de me décider plus rapidement. Est-ce ainsi que Moïse a reçu cette parole du Seigneur? Sans doute pas. Mais devant les difficultés d'envisager un retour en Égypte, pour toutes les raisons que nous avons évoquées la dernière fois, cette information-là, ceux qui en veulent à ta vie sont morts, aurait peut-être permis à Moïse de se décider plus vite. Pourtant Dieu, dans son infinie sagesse, a décidé de ne donner cette précision qu'une fois la décision prise par Moïse de retourner en Égypte. Et ce constat m'amène à faire un nouveau parallèle avec notre propre service pour Dieu. Un nouveau parallèle que je formule ainsi: à son service, Dieu ne nous dit pas tout tout de suite. Dieu ne nous dit pas tout tout de suite. Dieu ne nous donne pas tous les tenants et tous les aboutissants des projets dans lesquels nous nous engageons, du service que nous acceptons. Il nous donne souvent ce dont nous avons besoin pour faire juste le pas suivant. Nous aimerions plus, n'est-ce pas? Nous aimerions plus parce que nous sommes convaincus que si Dieu nous disait plus, alors nous servirions mieux. Alors nous nous engagerions mieux et sans doute que nous nous engagerions plus promptement. La tentation de marcher par la vue, c'est-à-dire ne pas marcher par la foi, marcher par la vue parce que nous saurions tout à l'avance, parce que nous verrions tout à l'avance, cette tentation-là est toujours présente dans nos vies. Mais c'est un leurre. C'est un leurre et puis c'est une marche par la foi à laquelle le Seigneur nous appelle. Pas une marche par la vue. Et ainsi Dieu distille au fur et à mesure ce dont nous avons besoin. Il nous donne ce qui est nécessaire pour aujourd'hui, à l'instar de la manne dans le désert, en attendant que nous revenions demain pour recevoir la suite, et ainsi de suite, dans la confiance qu'il donne ce qui est nécessaire pour le pas suivant. Ce que Dieu veut, c'est que nous marchions par la foi, que nous marchions avec confiance, toujours plus de confiance, que nous servions dans la dépendance et non en comptant sur nos propres forces. Et non parce que nous savons tout de A à Z dès le départ. C'est la raison pour laquelle Dieu ne nous donne pas tout tout de suite. Que dit le texte ensuite ? Il dit au verset 20 que Moïse est parti avec son épouse, Séphora et ses fils. À l'évidence, Moïse a su convaincre Séphora de venir avec lui dans ce long périple, entre 300 et 400 kilomètres dans le désert. Ils ont des enfants en bas âge, c'est une vraie aventure. Il n'y a pas de TGV, il n'y a rien, c'est à Dodan qu'ils vont faire ce long périple. Puis il est dit que Moïse prit dans sa main le bâton de Dieu. Le bâton de Dieu, pour ceux qui étaient là dimanche dernier, c'est ce simple bâton de berger, le bâton que Moïse avait, et que Dieu a transformé en serpent au début du chapitre, pour que Moïse, avec ce prodige et d'autres encore, puisse convaincre ceux qui seraient réticents parmi le peuple, que Dieu l'avait bien appelé. Et c'est avec ce bâton que Moïse va se présenter devant Aaron et qu'il va accomplir des prodiges, nous l'avons lu au verset 28, qu'il se présentera devant les anciens d'Israël, qu'il se présentera devant le peuple, devant Pharaon, qu'il accomplira toutes sortes de prodiges. Le bâton de Dieu, le bâton que Dieu a pourvu. Et je vois dans ce simple bâton devenu bâton de Dieu une belle image de la manière dont Dieu nous équipe chacun pour son service. Pour nous, bien évidemment, ce n'est pas un bâton que Dieu nous donne, mais c'est son esprit, son fruit, ses dons, sa parole, ses promesses, sa présence. Le point important à souligner ici, c'est que Dieu ne nous envoie pas à son service sans nous équiper. Il y aurait là une kyrielle de textes que l'on pourrait convoquer pour illustrer, pour alimenter tout cela. Je prends simplement le texte que je citais déjà la semaine dernière, dans 2 Pierre chapitre 1 verset 3, « Sa divine puissance nous a donné tout » ce qui contribue à la vie et à la piété. Nous a donné tout. La vie et la piété, ça inclut notre service pour le Seigneur. Dieu ne nous appelle pas à son service en nous laissant ensuite nous débrouiller tout seul. Tu as répondu, c'est bien, bon maintenant, essaye de te débrouiller pour faire au mieux. Il donne ce qu'il ordonne, disait saint Augustin, et il couronne ce qu'il donne. Il appelle et il équipe. Et c'est une raison supplémentaire pour nous de nous lever avec confiance à l'appel du service. Parce que Dieu équipe toujours celles et ceux qu'il appelle à son service. Dans les versets 21 à 23 de notre texte, Dieu va rappeler certaines choses à Moïse. Il rappelle tous les prodiges qu'il met à sa disposition. Il rappelle qu'il fera plier Pharaon. Et puis il ajoute, des choses qu'il n'avait pas encore dites jusqu'ici, qu'il va endurcir le cœur de Pharaon et qu'il va faire périr son premier-né. On verra tout ça en son temps quand ça reviendra dans notre texte. Ce que j'aimerais souligner ici, et qui rejoint le point précédent, c'est que Moïse s'engage avec les promesses de Dieu. Même si nous ne réfléchissons pas au sens de l'endurcissement, c'est une promesse que Dieu fait à Moïse. Il en a déjà fait d'autres. Moïse s'engage avec les promesses de Dieu. Chers amis, que serait notre service pour le Seigneur si nous n'avions pas ces promesses? Quelle folie ça serait pour chacun de nous de nous engager à servir Dieu si Dieu ne s'était pas d'abord engagé à bénir l'ouvrage de nos mains. Est-ce que nous imaginions un instant que nous y arriverions tout seuls? Quelle folie ce serait de nous engager à servir Dieu si Dieu ne s'était pas d'abord engagé à faire fructifier nos semailles. Si Dieu ne s'était pas d'abord engagé à préparer de bonnes œuvres pour que nous y entrions. C'est ça le service. C'est entrer dans les bonnes œuvres que Dieu a préparées. Ce n'est pas moi qui dois préparer. Moi, je ne fais qu'entrer dans ce que le Seigneur a préparé. Et c'est parce que nous avons toutes les promesses de Dieu que nous pouvons non seulement nous engager, mais nous engager avec une pleine confiance, parce que Dieu s'est engagé, parce que Dieu a promis de pourvoir, parce que Dieu a fait des promesses et qu'il tient toujours ses promesses. Nous arrivons à notre dernier point. Le dernier point que je voudrais souligner concerne les versets 24 à 26, où il est question de la circoncision. Circoncision, vous savez ce que c'est, hein, l'excision totale ou partielle du prépuce, qui, dans la Bible, depuis Abraham, devait être pratiquée sur chaque mâle du peuple dès le huitième jour, après la naissance. Après avoir fait alliance avec Abraham, Dieu lui avait demandé d'agir ainsi pour lui-même et pour toute sa descendance, de se faire circoncire comme le signe de l'alliance. Comme le signe de l'alliance. De la même manière que l'arc-en-ciel était le signe de l'alliance entre Noé, sa descendance et la terre tout entière, Dieu donne la circoncision à Abraham comme le signe de l'alliance qu'il conclut avec lui. Et ce qu'il faut bien comprendre avec cette question de la circoncision, c'est que la circoncision n'est que cela. Elle n'est que le signe de l'alliance. Rien d'autre. Certainement pas sa source. Abraham était déjà au bénéfice de l'alliance avec Dieu au moment de sa circoncision. Ce n'est pas parce qu'il s'est fait circoncire que Dieu a fait alliance. Dieu a fait alliance et lui a demandé ensuite. Et vous pouvez relire Genèse chapitre 15, Genèse 17 à ce sujet, si vous le souhaitez. Dieu s'était déjà engagé. Abraham avait déjà cru. Il était déjà justifié par la foi. Et la circoncision n'était que le sceau de la justice acquise, déjà acquise par la promesse et par la foi. C'était le signe, c'était la marque visible du contrat, si on peut parler ainsi. Et une des grandes erreurs du peuple d'Israël, au fil des siècles, a été de faire de la circoncision ce qu'elle n'était pas. Ce pourquoi elle n'avait jamais été donnée, d'en faire un but en soi, d'en faire le moyen d'entrer dans l'alliance, de la même manière que certains font aujourd'hui du baptême, exactement la même chose, le moyen d'entrer dans l'Église, le moyen d'être inclus dans le peuple de Dieu. En agissant ainsi, en ritualisant l'entrée dans l'alliance, Israël a mis l'accent sur la forme au détriment du fond. Or, ce que Dieu a toujours voulu, ce n'était pas la forme en premier, mais le fond, c'est-à-dire le cœur, l'adhésion du cœur, la circoncision du cœur. Il en est question dans l'Ancien Testament, il en est question dans le Nouveau Testament, l'obéissance plutôt que les sacrifices. Pourquoi ? parce que je peux tout bien faire à l'extérieur. Je peux faire tous les rites de la bonne manière et être très, très, très loin de Dieu dans mon cœur. Ça s'appelle de la religiosité, ça s'appelle de l'hypocrisie. C'est ce que Jésus n'a cessé de reprocher aux scribes et aux pharisiens en son temps. Cette erreur qu'Israël a faite avec la circoncision, il l'a aussi faite avec la loi. La loi qui avait été donnée à Israël pour faire vivre le peuple dans l'Alliance. Pas pour le faire entrer dans l'Alliance, mais pour le faire vivre, pour donner un cadre à cette Alliance, pour que le peuple puisse vivre de cette nouvelle relation que Dieu lui offrait. Mais Israël a fait de la loi un accès vers Dieu, une échelle vers Dieu, un moyen de gagner Dieu, de le mériter. Depuis Abraham, donc, la circoncision était pratiquée par les Hébreux. Et elle devait être faite sous peine de mort. C'était ainsi que Dieu avait dit les choses. Celui qui n'était pas circoncis devait être retranché du peuple car il avait rompu l'alliance avec Dieu. On peut revenir en arrière dans le livre de la Genèse, chapitre 17. Je lis les versets 9 à 14 où Dieu dit ces choses pour la première fois. Dieu dit à Abraham, « Toi, tu garderas mon alliance, toi et ta descendance après toi, dans toutes ces générations. Voici mon alliance telle que vous la garderez entre moi et vous, toi et ta descendance après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous ferez circoncire dans votre chair. Ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. » À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous, dans toutes vos générations, sera circoncis, qu'il soit né dans la maison, qu'il ait été acheté à prix d'argent à un étranger, à quelqu'un qui n'est pas de ta descendance. On devra circoncire celui qui est né dans ta maison et celui qui a été racheté avec ton argent. Mon alliance dans votre chair sera une alliance perpétuelle. Le mâle incirconcis, celui qui ne sera pas circoncis, celui-là sera retranché de son peuple, il a rompu mon alliance. On a posé le cadre, revenons à notre texte. Que s'y passe-t-il? Notons que ces versets, quoi que on en dise et quoi que j'en dise maintenant, ces versets sont et restent mystérieux. Ils ne font certainement pas l'unanimité dans leur interprétation. Pendant le voyage, Dieu arrête Moïse, dit le texte. On va revenir au texte. Dieu arrête Moïse. Et le texte dit que Dieu voulut faire mourir Moïse. Il ne dit pas comment, mais il dit que Dieu l'arrête et qu'il cherche à le faire mourir. Est-ce que Moïse est tombé gravement malade? Enfin, on ne sait pas. Le texte ne le précise pas. Pourquoi amener Moïse jusqu'ici, si c'est pour le faire mourir? Pourquoi toute cette histoire de retour en Égypte, si c'est pour faire mourir Moïse dans le désert avant même qu'il arrive en Égypte? Le texte ne dit pas grand-chose, mais il est assez évident, à la lecture du texte, que cet arrêt brutal sur le chemin de l'Égypte est en lien, est lié à la non-circoncision d'un des fils de Moïse, sans doute le second, Éliézer, puisqu'après la circoncision que Séphora va opérer, tout rentre dans l'ordre. Alors une des questions qui est soulevée ici par ces versets est celle du pourquoi de la non-circoncision de ce fils. Est-ce que c'est parce que le départ pour l'Égypte s'est fait dans la précipitation et que l'enfant venait juste de naître? Est-ce que c'est parce que Séphora y était opposé pour une raison ou pour une autre? Je dis cela parce que son attitude et les paroles qu'elle prononce peuvent le laisser à penser. Elle opère, semble-t-il, cette circoncision à contre-cœur. On a le sentiment qu'elle en veut à Moïse. Est-ce que c'est parce que Moïse a simplement été négligent et n'a pas pratiqué la circoncision quand il aurait dû le faire en se disant « Ah, je le ferai plus tard, j'ai bien le temps, on n'est pas à 15 jours près. » Alors bien sûr, nous ne savons pas. Mais quelle qu'a été la raison, ce que nous savons, c'est que Moïse a commis une faute. Moïse a commis un péché, il a désobéi à la parole du Seigneur, celle qu'il avait donnée à Abraham, et c'est la raison pour laquelle Dieu l'arrête sur le chemin du service. Alors qu'est-ce que je retiens de cet épisode ? Je retiens de cet épisode qu'au service du Seigneur, c'est lui qui fixe les règles, et pas moi. Dieu a arrêté Moïse sur le chemin du service car Moïse avait des choses à régler dans sa vie. Qu'il ait été négligent ou pas, il y avait désobéissance au commandement du Seigneur et Moïse devait mettre sa vie en règle avant de poursuivre, avant de pouvoir continuer sur son chemin de service. Il y a pour nous aussi un vrai danger à être négligent dans notre vie chrétienne. En général, et puis au service du Seigneur en particulier. Et parfois, nous pouvons peut-être penser que nous pouvons nous accommoder avec le Seigneur, nous accommoder avec sa parole, nous accommoder avec sa sainteté, avec sa volonté, nous accommoder avec sa grâce. Mais on ne marchande pas avec le Seigneur. On ne marchande pas avec sa volonté, on ne marchande pas avec ses exigences. C'est la raison pour laquelle il est bon de régulièrement sonder notre cœur. Il est bon de laisser le Seigneur le faire, il le fait bien mieux que nous. Nous demander régulièrement s'il y a quelque chose qui nous arrête dans notre service pour le Seigneur, dans notre marche de la foi, qui nous empêche d'avancer dans notre service ou vers notre service, celui que Dieu nous a confié. Après la circoncision, Moïse a pu repartir. Il est sans doute, c'est possible, et c'est sans doute à ce moment-là que Séphora a fait demi-tour. Ce qui peut ajouter à l'idée que c'était quand même pas au beau fixe peut-être entre les deux. En tout cas, il n'est plus question de Séphora et la prochaine fois où il en est question, elle est avec Jéthro et elle va rejoindre Moïse et le peuple dans le désert après la sortie de l'Égypte. Donc à un moment donné, elle est repartie en Madian. Après le temps des tergiversations, Moïse s'est engagé. Il a répondu à l'appel du service. Où en sommes-nous personnellement ? Avec ce que le Seigneur nous appelle à faire. Avant de partir, Moïse a pris le temps de parler avec son beau-père. Il a fait les choses dans l'ordre et avec bon sens. Y a-t-il des personnes avec qui je devrais parler avant de continuer mon chemin, avant de m'engager plus avant ? Il y a des choses essentielles que Dieu n'a révélées à Moïse qu'après coup. Dans mon service pour le Seigneur, est-ce que j'accepte de recevoir ce dont j'ai besoin au fur et à mesure ? Ou alors est-ce que je rue dans les brancards parce que ça ne va pas assez vite ? Parce que j'aurais envie d'en voir un peu plus ? C'est tellement plus confortable de marcher par la vue que par la foi. Moïse est parti équipé du bâton de Dieu. Suis-je conscient de ce que Dieu me donne pour le servir ? Est-ce que je m'en contente ? Est-ce que j'aspire à autre chose ? Et dans cette aspiration, prends le risque de m'écarter du chemin que le Seigneur trace pour moi ? Dieu a fait des promesses à Moïse concernant les événements qui se passeraient en Égypte. Il a garanti le succès dans ses entreprises. Est-ce que je vis des promesses de Dieu dans ma vie? Est-ce que c'est pour moi au centre? Est-ce que les promesses de Dieu me suffisent à ma foi, à ma confiance, à mon service, ou est-ce que je voudrais autre chose? Enfin, c'est Dieu qui fixe les règles et les limites du service auquel il nous appelle. Est-ce que je soumets ma volonté à celle du Seigneur? Ou bien là encore, est-ce que je rue dans les brancards? Dieu appelle chacun de ses enfants à le servir. Parfois, il le fait d'une manière spécifique pour un temps. Parfois, c'est plusieurs choses au même temps. En tout cas, c'est toute notre vie que nous sommes appelés à servir. Que le Seigneur nous vienne en aide et nous aide chacun à répondre aujourd'hui à l'appel du service, aujourd'hui, demain, à l'appel que le Seigneur nous adresse. Peut-être c'est un appel à persévérer dans le service que j'ai accepté. Peut-être c'est un appel pour aller vers autre chose, qu'il nous aide pour sa gloire. Amen. Je vous invite à